Deux nouvelles. Guy de Maupassant. Le baptême. Allons, docteur, un peu de cognac ?
Volontiers.
Et le vieux médecin de marine, ayant tendu son petit verre, regarda monter jusqu'au bord le joli liquide aux reflets dorés. Puis, il l'éleva à la hauteur de l'œil, fit passer dedans la clarté de la lampe, le flaira, en aspira quelques gouttes qu'il promena longtemps sur sa langue et sur la chair humide et délicate du palais, puis il dit « Oh, le charmant poison !» ou plutôt le séduisant meurtrier, le délicieux destructeur de peuples. Vous ne le connaissez pas, vous autres. Vous avez lu, il est vrai, cet admirable livre qu'on nomme l'Assommoir, mais vous n'avez pas vu, comme moi, l'alcool exterminer une tribu de sauvages, un petit royaume de nègres, l'alcool apporté par Tonnelet, Rondelet, que débarquaient d'un air placide des matelots anglais aux barbes rousses. Mais tenez, j'ai vu, de mes yeux vus, un drame de l'alcool bien étrange et bien saisissant. Et tout près d'ici, en Bretagne, dans un petit village aux environs de Pont-l'Abbé. J'habitais alors, pendant un congé d'un an, une maison de campagne que m'avait laissée mon père. Vous connaissez cette côte plate où le vent siffle dans les ajoncs jour et nuit, où l'on voit par place, debout ou couché, ces énormes pierres qui furent des dieux et qui ont gardé quelque chose d'inquiétant dans leur posture, dans leur allure, dans leur forme. Il me semble toujours qu'elles vont s'animer et que je vais les voir partir par la campagne d'un pas lent et pesant, de leurs pas de colosses de granit, ou s'envoler avec des ailes immenses, des ailes de pierre, vers le paradis des druides. La mer enferme et domine l'horizon, la mer remuante, pleine d'écueils aux têtes noires, toujours entourée d'une bave d'écume, pareille à des chiens qui attendraient les pêcheurs. Et eux, les hommes, ils s'en vont sur cette mer terrible qui retourne leur barque d'une secousse de son dos verdâtre et les avale comme des pilules. Ils s'en vont dans leur petit bateau, le jour et la nuit, hardis, inquiets et ivres. Ivres, ils le sont bien souvent. Quand la bouteille est pleine, disent-ils, on voit l'écueil. Mais quand elle est vide, on ne le voit plus. Entrez dans ces chaumières. Jamais vous ne trouverez le père. Et si vous demandez à la femme ce qu'est devenu son homme, elle tendra les bras sur la mer sombre qui grogne et crache sa salive blanche le long du rivage. Il est resté dedans un soir qu'il avait bu un peu trop. Et le fils aîné aussi. Elle a encore 4 garçons, 4 grands gars blonds et forts, à bientôt leur tour. J'habitais donc une maison de campagne, près de Pont-l'Abbé. J'étais là, seul avec mon domestique, un ancien marin, et une famille bretonne qui gardait la propriété en mon absence. Elle se composait de 3 personnes, 2 sœurs et un homme qui avait épousé l'une d'elles et qui cultivait mon jardin. Or, cette année-là, vers la Noël, la compagne de mon jardinier accoucha d'un garçon. Le marin vint me demander d'être parrain. Je ne pouvais guère refuser, et il m'emprunta 10 francs pour les frais d'église, disait-il. La cérémonie fut fixée au 2 janvier. Depuis 8 jours, la terre était couverte de neige, d'un immense tapis livide et dur qui paraissait illimité sur ce pays plat et bas. La mer semblait noire au loin derrière la plaine blanche, et on la voyait s'agiter, hausser son dos, rouler ses vagues, comme si elle eût voulu se jeter sur sa pâle voisine qui avait l'air d'être morte, elle, si calme, si morne, si froide. À 9 heures du matin, le père Kérandec arriva devant ma porte avec sa belle-sœur, la grande Kermagan, et la garde qui portait l'enfant roulé dans une couverture. Et nous voilà partis vers l'église. Il faisait un froid à fendre les dolmens, un de ces froids déchirants qui cassent la peau et font souffrir horriblement de leur brûlure de glace. Moi, je pensais au petit être qu'on portait devant nous et je me disais que cette race bretonne était de fer, vraiment, pour que ses enfants fussent capables, dès leur naissance, de supporter de pareilles promenades. Nous arrivâmes devant l'église. Mais la porte en demeurait fermée. Monsieur le curé était en retard. Alors, la garde, s'étant assise sur une des bornes près du seuil, se mit à dévêtir l'enfant. Je crus d'abord qu'il avait mouillé ses linges, mais je vis qu'on le mettait nu, tout nu, le misérable tout nu, dans l'air gelé. Je m'avançai révolté d'une telle imprudence. « Mais vous êtes folle! Vous allez le tuer !» La femme répondit placidement « Oh non, monsieur notre maître, faut qu'il attende le bon Dieu tout nu !» Le père et la tante regardaient cela avec tranquillité. C'était l'usage. Si on ne l'avait pas suivi, il serait arrivé malheur au petit. Je me fâchais, j'injuriais l'homme, je menaçais de m'en aller, je voulus couvrir de force la frêle créature. Ce fut en vain. La garde se sauvait devant moi en courant dans la neige et le corps du mioche devenait violet. J'allais quitter ces brutes quand j'aperçus le curé arrivant par la campagne suivi du sacristain et d'un gamin du pays. Je courus vers lui et je lui dis avec violence mon indignation. Il ne fut point surpris, il ne hâta pas sa marche, il ne pressa point ses mouvements. Il répondit « Que voulez-vous, monsieur ? C'est l'usage. Ils le font tous. Nous ne pouvons empêcher ça. »« Mais au moins dépêchez-vous » criai-je. Il reprit « Je ne peux pourtant pas aller plus vite. » Et il entra dans la sacristie, tandis que nous demeurions sur le seuil de l'église où je souffrais, certes, davantage que le pauvre petit qui hurlait sous la morsure du froid. La porte enfin s'ouvrit. Nous entrâmes. Mais l'enfant devait rester nu pendant toute la cérémonie. Elle fut interminable. Le prêtre annonçait les syllabes latines qui tombaient de sa bouche, scandées à contresens. Il marchait avec lenteur, avec une lenteur de tortue sacrée. Et son surplis blanc me glaçait le cœur, comme une autre neige dont il se fût enveloppé pour faire souffrir, au nom d'un dieu inclément et barbare, cette larve humaine que torturait le froid. Le baptême, enfin, fut achevé selon les rites, et je vis la garde rouler de nouveau dans la longue couverture l'enfant glacé qui gémissait d'une voix aiguë et douloureuse. Le curé me dit « Voulez-vous venir signer le registre ?» Je me tournai vers mon jardinier. « Rentrez bien vite maintenant et réchauffez-moi cet enfant-là tout de suite !» Et je lui donnai quelques conseils pour éviter, s'il en était temps encore, une fluxion de poitrine. L'homme promit d'exécuter mes recommandations. Et il s'en alla avec sa belle-sœur et la garde. Je suivis le prêtre dans la sacristie. Quand j'eus signé, il me réclama 5 francs pour les frais. Ayant donné 10 francs au père, je refusais de payer de nouveau. Le curé menaça de déchirer la feuille et d'annuler la cérémonie. Je le menaçai à mon tour du procureur de la République. La querelle fut longue, je finis par payer. À peine rentré chez moi, je voulus savoir si rien de fâcheux n'était survenu. Je courus chez Kérandec, mais le père, la belle-sœur et la garde n'étaient pas encore revenus. La couchée, restée toute seule, grelottait de froid dans son lit et elle avait faim, n'ayant rien mangé depuis la veille. « Où diable sont-ils partis ? » demandai-je. Elle répondit sans s'étonner, sans s'irriter. Ils auront été pour fêter. C'était l'usage. Alors je pensais à mes 10 francs qui devaient payer l'église et qui payeraient l'alcool, sans doute. J'envoyais du bouillon à la mère et j'ordonnais qu'on fît bon feu dans sa cheminée. J'étais anxieux et furieux, me promettant bien de chasser ces brutes et me demandant avec terreur ce qu'allait devenir le misérable mioche. À 6 heures du soir, il n'était pas revenu. J'ordonnais à mon domestique de les attendre et je me couchais. Je m'endormis bientôt, car je dors comme un vrai matelot. Je fus réveillé, dès l'aube, par mon serviteur qui m'apportait l'eau chaude pour ma barbe. Dès que j'eus les yeux ouverts, je demandai « Ekerendek ?» L'homme hésitait, puis balbutia. « Oh, il est rentré, monsieur, à minuit passé, et sous à ne pas marcher, et la grande Kermagan aussi, et la garde aussi. Je crois bien qu'ils avaient dormi dans un fossé, de sorte que le petit était mort, qu'ils s'en sont pas même aperçus. » Je me levai d'un bond, criant. « L'enfant est mort !»« Oui, monsieur, ils l'ont rapporté à la mère Kerendek. Quand elle a vu ça, elle s'est mise à pleurer, alors ils l'ont fait boire pour la consoler. »«
Comment ?
Ils l'ont fait boire ? » ?»«
Oui, monsieur, j'ai su ça seulement au matin, tout à l'heure. » Comme Kerendek n'avait plus d'eau-de-vie et plus d'argent, il a pris l'essence de la lampe que monsieur lui a donnée et ils ont bu ça tous les 4, tant qu'il en était resté dans le litre. Même que la Kerendek est bien malade.
J'avais passé mes vêtements à la hâte et saisissant une canne avec la résolution de taper sur toutes ces bêtes humaines, je courus chez mon jardinier. La couchée agonisait. Saoule d'essence minérale, à côté du cadavre bleu de son enfant. Kerendek la garde et la grande Kermagan ronflaient sur le sol. Je dus soigner la femme qui mourut vers midi. Le vieux médecin s'était tu. Il reprit la bouteille d'eau de vie, s'en versa un nouveau verre, et ayant encore fait courir à travers la liqueur blonde la lumière des lampes qui semblait mettre en son verre un jus clair de topaze fondue, il avala d'un trait le liquide perfide et chaud. Les bécasses. Ma chère amie, vous me demandez pourquoi je ne rentre pas à Paris. Vous vous étonnez et vous vous fâchez presque. La raison que je vais vous donner va, sans doute, vous révolter. Est-ce qu'un chasseur rentre à Paris au moment du passage des bécasses ? Certes, je comprends et j'aime assez cette vie de la ville qui va de la chambre au trottoir, mais je préfère la vie libre, la rude vie d'automne du chasseur. À Paris, il me semble que je ne suis jamais dehors, car les rues ne sont, en somme, que de grands appartements communs et sans plafond. Est-on à l'air ? Entre deux murs, les pieds sur des pavés de bois ou de pierre, le regard borné partout par des bâtiments, sans aucun horizon de verdure, de plaine ou de bois. Des milliers de voisins vous coudoient, vous poussent, vous saluent et vous parlent. Et le fait de recevoir de l'eau sur un parapluie quand il pleut ne suffit pas à me donner l'impression, la sensation de l'espace. Ici, je perçois bien nettement et délicieusement la différence du dedans et du dehors. Mais ce n'est pas de cela que je veux vous parler. Donc, les bécasses passent. Il faut vous dire que j'habite une grande maison normande,
dans une vallée, auprès d'une petite rivière, et que je chasse presque tous les jours. Les autres jours, je lis. Je lis même des choses que les hommes de Paris n'ont pas le temps de connaître, des choses très sérieuses, très profondes, très curieuses, écrites par un brave savant de génie, un étranger qui a passé toute sa vie à étudier la même question et à observer les mêmes faits relatifs à l'influence du fonctionnement de nos organes sur notre intelligence. Mais je veux vous parler des bécasses. Donc, mes deux amis, les frères d'Orgemolle et moi, nous restons ici pendant la saison de chasse, en attendant les premiers froids. Puis, dès qu'il gèle, nous partons pour leur ferme de Canetot, près de Fécamp, parce qu'il y a là un petit bois délicieux, un petit bois divin, où viennent loger toutes les bécasses qui passent. Vous connaissez les d'Orgemolle, ces deux géants, ces deux Normands des premiers temps, ces deux mâles de la vieille et puissante race de conquérants qui envahit la France, prit et garda l'Angleterre, s'établit sur toutes les côtes du vieux monde, éleva des villes partout, passa comme un flot sur la Sicile en y créant un art admirable, bâtit tous les rois, pilla les plus fières cités, roula les papes dans leurs ruses de prêtres et les joua plus madré que ses pontifes italiens, et surtout laissa des enfants dans tous les lits de la terre. Les d'Orgemolle sont deux Normands, timbrés au meilleur titre. Ils ont tout des Normands, la voix, l'accent, l'esprit, les cheveux blonds et les yeux couleur de la mer. Quand nous sommes ensemble, nous parlons patois, nous vivons, pensons, agissons en Normands. Nous devenons des Normands terriens, plus paysans que nos fermiers. Or, depuis 15 jours, nous attendions les bécasses. Chaque matin, l'aîné, Simon, me disait « Hé, v'là le vent qui passe à l'est, il va geler, dans 2 jours elles viendront. » Le cadet, Gaspard, plus précis, attendait que la gelée fût venue pour l'annoncer. Or, jeudi dernier, il entra dans ma chambre dès l'aurore en criant « Ça y est, la terre est toute blanche, 2 jours comme ça et nous allons à Canetot. » 2 jours plus tard, en effet, nous partions pour Canetot. Certes, vous auriez ri en nous voyant, nous nous déplaçons dans une étrange voiture de chasse que mon père fit construire autrefois. Construire est le seul mot que je puisse employer en parlant de ce monument voyageur, ou plutôt de ce tremblement de terre roulant. Il y a de tout là-dedans. Qu'est-ce pour les provisions? Qu'est-ce pour les armes? Qu'est-ce pour les mâles? Qu'est-ce à claire-voie pour les chiens? Tout y est à l'abri, excepté les hommes, perchés sur des banquettes à balustrades, hautes comme un troisième étage, et portés par 4 roues gigantesques. On parvient là-dessus comme on peut, en se servant des pieds, des mains et même des dents à l'occasion, car aucun marchepied ne donne accès sur cet édifice. Donc, les deux d'Orgemolle et moi, nous escaladons cette montagne, en des accoutrements de lapons. Nous sommes vêtus de peau de mouton, nous portons des bas de laine énormes par-dessus nos pantalons et des guêtres par-dessus nos bas de laine. Nous avons des coiffures en fourrure noire et des gants en fourrure blanche. Quand nous sommes installés, Jean, mon domestique, nous jette nos 3 bassets, pif, paf et moustache. Pif appartient à Simon, paf à Gaspard et moustache à moi. On dirait 3 petits crocodiles à poil. Ils sont longs, bas, crochus, avec des pattes torses, et tellement velus qu'ils ont l'air de broussailles jaunes. À peine voit-on leurs yeux noirs sous leurs sourcils et leurs crocs blancs sous leur barbe. Jamais on ne les enferme dans les chenils roulants de la voiture. Chacun de nous garde le sien sous ses pieds pour avoir chaud. Et nous voilà partis, secoués abominablement. Il gelait ferme, nous étions contents. Vers 5 heures, nous arrivions. Le fermier maître Picot nous attendait devant la porte. C'est aussi un gaillard, pas grand, mais rond, trapu, vigoureux comme un dogue, rusé comme un renard, toujours souriant, toujours content et sachant faire argent de tout. C'est grande fête pour lui au moment des bécasses. La ferme est vaste, un vieux bâtiment dans une cour à pommiers, entouré de quatre rangs de hêtres qui bataillent toute l'année contre le vent de mer. Nous entrons dans la cuisine, où flambe un beau feu en notre honneur. Notre table est mise tout contre la haute cheminée où tourne et cuit, devant la flamme claire, un gros poulet dont le jus coule dans un plat de terre. La fermière alors nous salue, une grande femme muette, très polie, tout occupée des soins de la maison, la tête pleine d'affaires et de chiffres, prix des grains, des volailles, des moutons, des bœufs. C'est une femme d'ordre, rangée et sévère, connue à sa valeur dans les environs. Au fond de la cuisine s'étend la grande table où viendront s'asseoir tout à l'heure les valets de tout ordre, charretiers, laboureurs, goujats, filles de ferme, bergers. Et tous ces gens mangeront en silence, sous l'œil actif de la maîtresse, en nous regardant dîner avec maître Picot qui dira des blagues pour rire. Puis, quand tout son personnel sera repu, madame Picot prendra, seule, son repas, rapide et frugal, sur un coin de table, en surveillant la servante. Aux jours ordinaires, elle dîne avec tout son monde. Nous couchons tous les trois, les Dorgemolle et moi, dans une chambre blanche, toute nue, peinte à la chaux, et qui contient seulement nos trois lits, trois chaises et trois cuvettes. Gaspard s'éveille toujours le premier et sonne une diane retentissante. En une demi-heure, tout le monde est prêt et on part avec maître Picot qui chasse avec nous. Maître Picot me préfère à ses maîtres. Pourquoi ? Sans doute parce que je ne suis pas son maître. Donc, nous voilà tous les deux qui gagnons le bois par la droite, tandis que les deux frères vont attaquer par la gauche. Simon à la direction des chiens qu'il traîne, tous les trois attachés au bout d'une corde. Car nous ne chassons pas la bécasse, mais le lapin. Nous sommes convaincus qu'il ne faut pas chercher la bécasse, mais la trouver. On tombe dessus et on la tue, voilà. Quand on veut spécialement en rencontrer, on ne les pince jamais. C'est vraiment une chose belle et curieuse que d'entendre dans l'air frais du matin la détonation brève du fusil, puis la voix formidable de Gaspard remplir l'horizon et hurler « Bécasse ! Elle y est !» Moi, je suis sournois. Quand j'ai tué une bécasse, je crie « Lapin !» et je triomphe avec excès lorsqu'on sort les pièces du carnier au déjeuner de midi. Donc, nous voilà, maître Picot et moi, dans le petit bois dont les feuilles tombent avec un murmure doux et continu. Un murmure sec, un peu triste, elles sont mortes. Il fait froid, un froid léger qui pique les yeux, le nez et les oreilles et qui a poudré d'une fine mousse blanche le bout des herbes et la terre brune des labourés. Mais on a chaud tout le long des membres, sous la grosse peau de mouton. Le soleil est gai dans l'air bleu. Il ne chauffe guère, mais il est gai. Il fait bon chasser au bois par les frais matins d'hiver. Là-bas, un chien jette un aboiement aigu. C'est Pif. Je connais sa voix frêle. Puis, plus rien. Voilà un autre cri, puis un autre, et paf, à son tour, donne de la gueule. Que fait donc Moustache ? Ah, le voilà qui piaule comme une poule qu'on étrangle. Ils ont levé un lapin. Attention ! Attention, maître Picot. Il s'éloigne, se rapproche, s'écarte encore, puis reviennent. Nous suivons leurs allées imprévues en courant dans les petits chemins, l'esprit en éveil, le doigt sur la gâchette du fusil. Ils remontent vers la plaine,
Nous remontons aussi. Soudain, une tache grise, une ombre traverse le sentier. J'épaule et je tire. La fumée légère s'envole dans l'air bleu et j'aperçois sur l'herbe une pincée de poils blancs qui remue. Alors, je hurle de toute ma force.
« Lapin ! Lapin, il y est !»
Et je le montre aux trois chiens, aux trois crocodiles velus qui me félicitent en remuant la queue, puis s'en vont en chercher un autre. Maître Picot m'avait rejoint. Moustache se remit à japper. Le fermier dit « Ça pourrait bien être un lièvre. Allons au bord de la plaine. » Mais au moment où je sortais du bois, j'aperçus, debout, à 10 pas de moi, enveloppé dans son immense manteau jaunâtre, coiffé d'un bonnet de laine et tricotant toujours un bas, comme font les bergers chez nous, le pâtre de Maître Picot, Gargan, le muet. Je lui dis selon l'usage, « Bonjour, pasteur !» Et il leva la main pour me saluer, bien qu'il n'eût pas entendu ma voix. Mais il avait vu le mouvement de mes lèvres. Depuis 15 ans, je le connaissais, ce berger. Depuis 15 ans, je le voyais chaque automne, debout au bord ou au milieu d'un champ, le corps immobile, et ses mains tricotant toujours. Son troupeau le suivait comme une meute, semblait obéir à son œil. Maître Picot me serra le bras. « Vous savez que le berger a tué sa femme ?» Je fus stupéfait. « Gargan ? Le sourd muet ? » Oui, cet hiver, et il a été jugé à Rouen. Je vais vous conter ça. Et il m'entraîna dans le taillis, car le pasteur savait cueillir les mots sur la bouche de son maître comme s'il les eût entendus. Il n'en comprenait que lui, mais en face de lui, il n'était plus sourd. Et le maître, par contre, devinait comme un sorcier toutes les intentions de la pantomime du muet, tous les gestes de ses doigts, les plis de ses joues et les reflets de ses yeux. Voici cette simple histoire, sombre fait divers, comme il s'en passe au champ, quelquefois. Gargan était fils d'un marneux. D'un de ces hommes qui descendent dans les marnières pour extraire cette sorte de pierre molle, blanche et fondante qu'on sème sur les terres. Sourd-muet de naissance, on l'avait élevé à garder des vaches le long des fossés des routes. Puis, recueilli par le père de Picot, il était devenu berger de la ferme. C'était un excellent berger. Dévoué, probe, et qui savait replacer les membres d'Émy, bien que personne ne lui eût jamais appris. Quand Picot prit la ferme à son tour, Gargan avait 30 ans et en paraissait 40. Il était haut, maigre et barbu, barbu comme un patriarche. Or, vers cette époque, une bonne femme du pays, très pauvre, la Martel, mourut laissant une fillette de 15 ans. Qu'on appelait la goutte, à cause de son amour immodéré pour l'eau de vie. Picot recueillit cette guenilleuse et l'employa de menues besognes, la nourrissant sans la payer en échange de son travail. Elle couchait sous la grange, dans l'étable ou dans l'écurie, sur la paille ou sur le fumier, quelque part, n'importe où, car on ne donne pas un lit à ses va-nu-pieds. Elle couchait donc n'importe où, avec n'importe qui, peut-être avec le charretier ou le goujat. Mais il arriva que bientôt, elle s'adonna avec le sourd et s'accoupla avec lui d'une façon continue. Comment s'unir ces deux misères? Comment se comprirent-elles? Avait-il jamais connu une femme avant cette rôdeuse de grange, lui qui n'avait jamais causé avec personne? Était-ce elle qui le fut trouver dans sa hutte roulante et qui le séduisit, Ève d'ornière, au bord d'un chemin? On ne sait pas. On sut seulement un jour qu'ils vivaient ensemble, comme mari et femme. Personne ne s'en étonna. Et Picot trouva même cet accouplement naturel.
Mais voilà que le curé apprit cette union sans messe. Il se fâcha. Il fit des reproches à Madame Picot, inquiéta sa conscience, la menaça de châtiments mystérieux. Que faire ? C'était bien simple. On allait les marier à l'église et à la mairie. Ils n'avaient rien, ni l'un ni l'autre. Lui, pas une culotte entière, elle, pas un jupon d'une seule pièce. Donc, rien ne s'opposait à ce que la loi et la religion fussent satisfaites. On les unit, en une heure, devant mère et curé, et on crut tout réglé pour le mieux. Mais voilà que bientôt, ce fut un jeu dans le pays, pardon pour ce vilain mot, de faire cocu ce pauvre Gargan. Avant qu'il fût marié, personne ne songeait à coucher avec la goutte. Et maintenant, chacun voulait son tour, histoire de rire. Tout le monde y passait pour un petit verre, derrière le dos du mari. L'aventure fit même tant de bruit aux environs qu'il vint des messieurs de Goderville pour voir ça. Moyennant un demi-litre, la goutte leur donnait le spectacle avec n'importe qui, dans un fossé, derrière un mur. Tandis qu'on apercevait, en même temps, la silhouette immobile de Gargan, tricotant à bas, à 100 pas de là, et suivi de son troupeau bêlant. Et on riait, à s'en rendre malade, dans tous les cafés de la contrée. On ne parlait que de ça le soir devant le feu. On s'abordait sur les routes en se demandant « As-tu payé la goutte à la goutte ?» On savait ce que cela voulait dire. Le berger ne semblait rien voir. Mais voilà qu'un jour, le gars Poirot, de Sasseville, appela d'un signe la femme à Gargan derrière une meule en lui faisant voir une bouteille pleine. Elle comprit et accourut en riant. Or, à peine était-il occupé à leur besogne criminelle, que le pâtre tomba sur eux comme s'il fût sorti d'un nuage. Poirot s'enfuit à cloche-pied, la culotte sur les talons, tandis que le muet, avec des cris de bête, serrait la gorge de sa femme. Des gens accoururent qui travaillaient dans la plaine. Il était trop tard. Elle avait la langue noire, les yeux sortis de la tête, du sang lui coulait par le nez. Elle était morte. Le berger fut jugé par le tribunal de Rouen. Comme il était muet, Picot lui servait d'interprète. Les détails de l'affaire amusèrent beaucoup l'auditoire. Mais le fermier n'avait qu'une idée. C'était de faire acquitter son pasteur. Il s'y prenait en malin. Il raconta d'abord toute l'histoire du sourd et celle de son mariage. Puis, quand il en vint au crime, il interrogea lui-même l'assassin. Toute l'assistance était silencieuse. Picot prononçait avec lenteur. « Savais-tu qu'elle te trompait ?» Et en même temps, il mimait sa question avec les yeux. L'autre fit « non » de la tête. « T'étais couché dans la meule quand tu l'as surpris. » Et il faisait le geste d'un homme qui aperçoit une chose dégoûtante. L'autre fit « oui » de la tête. Alors le fermier, imitant les signes du maire qui marie et du prêtre qui unit au nom de Dieu, demanda à son serviteur s'il avait tué sa femme parce qu'elle était liée à lui devant les hommes et devant le ciel. Le berger fit oui de la tête. Picot lui dit « Allons, montre comment c'est arrivé. » Alors le sourd mima lui-même toute la scène. Il montra qu'il dormait dans la meule, qu'il s'était réveillé en sentant remuer la paille, qu'il avait regardé tout doucement et qu'il avait vu la chose. Il s'était dressé entre les deux gendarmes et brusquement, il imita le mouvement obscène du couple criminel enlacé devant lui.
Un rire tumultueux s'éleva dans la salle, puis s'arrêta net. Car le berger, les yeux hagards, remuant sa mâchoire et sa grande barbe comme s'il eût mordu quelque chose, les bras tendus, la tête en avant, répétait l'action terrible du meurtrier qui étrangle un être. Et il hurlait, affreusement, tellement affolé de colère qu'il croyait la tenir encore et que les gendarmes furent obligés de le saisir et de l'asseoir de force pour le calmer. Un grand frisson d'angoisse courut dans l'assistance. Alors, Maître Picot, posant la main sur l'épaule de son serviteur, dit simplement « Il a de l'honneur, cet homme-là. » Et le berger fut acquitté. Quant à moi, ma chère amie, j'écoutais, fort émue, la fin de cette aventure que je vous ai racontée en termes bien grossiers pour ne rien changer au récit du fermier, quand un coup de fusil éclata au milieu du bois et la voix formidable de Gaspard gronda dans le vent comme un coup de canon.
« Bécasse, elle y est !»
Et voilà comment j'emploie mon temps, à guetter des bécasses qui passent, tandis que vous allez aussi voir passer au bois les premières toilettes d'hiver.